France Inter.
Vous goûtez comme ça?
Oui, bien sûr.
Oui, c'est bon.
Taïwan, c'est une jeune nation. Nous sommes aussi une nation en quête d'identité. Taïwan a été l'héritage quand même de cette très bonne cuisine chinoise et en ajoutant des éléments du Japon, parce qu'on a été aussi une partie du Japon pendant 55 ans, de l'Europe, parce que Taïwan est très influencé par l'Europe. Je crois, sur le plan politique, Taïwan doit être le pays le plus européen en Asie, et aussi la générosité des aborigènes locales. Et c'est tout ça qui a fait la bonne cuisine taïwanaise. Ce sont plutôt beaucoup de petits plats, très très bons, pas trop chers, et que ça tourne très très vite.
C'était François Hou, le vice-ministre des Affaires étrangères de Taïwan, qui m'a accordé une interview dans son ministère de Taipei. Il me confiait, dans ce français parfait, sa vision d'une cuisine taïwanaise singulière, métissée et en pleine ébullition. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Le nom de Taïwan s'invite bien souvent dans l'actualité, sur la scène géopolitique avec la menace du voisin chinois, sur la scène économique avec son leadership mondial dans le secteur stratégique des semi-conducteurs, mais cette île tropicale brille sur une autre scène, la gastronomie, une véritable passion qui participe à la construction de l'identité de cette jeune démocratie. Taipei passe même, depuis quelques années, pour l'une des capitales les plus passionnantes d'Asie en matière de street food. J'ai eu la chance d'aller prendre le pouls sur place, sur le terrain, de cette énergie bouillonnante, nos reportages sur place et deux invités pour nous plonger dans les marmites de Taïwan. Scarlett Chen, bonjour!
Bonjour.
Vous êtes originaire de Taipei, vous avez étudié la cuisine en France et vous avez ouvert à Paris en 2017 ce restaurant spécialisé dans la street food taïwanaise. Vous pouvez nous donner le nom de votre restaurant?
C'est le restaurant Bopom.
C'est ça, Bopom, et on est au 48...
Rue de Lancry dans Paris 10e.
48 rue de Lancry, Paris 10e, pour aller déguster notamment un délicieux poulet frit. Ouais, le poulet frit est une des spécialités de Taïwan et il paraît qu'il est très bon là-bas. Vous allez nous faire découvrir, chère Scarlett, le goût de votre île à travers quelques recettes emblématiques. Allez, une petite recette que vous avez préparée, qu'est-ce qu'il y a?
Bon, aujourd'hui, je vais préparer c'est le calamar avec la sauce sans saveur.
Calamar, 5 saveurs, on va se régaler. Avec nous également Pierre-Antoine Donnet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes originaire de Colmar, en Alsace. Vous êtes diplômé de, attention, sciences politiques, histoire, langue chinoise. Vous avez été journaliste pendant 37 ans à l'agence France-Presse, l'AFP. Vous avez une relation très intime à Taïwan, où vous avez vécu. Vous y retournez très régulièrement. Vous en revenez?
Absolument, il y a une semaine.
Vous êtes quasiment en jet lag encore? Ah non, il y a une semaine.
Enfin, un peu moins, mais j'y étais une semaine, oui.
D'accord. Et vous signez un essai concis et limpide. Ça a été mon compagnon de voyage sur place pour comprendre l'âme de ce pays. Taïwan, survivre libre, dans la collection L'âme des peuples, des éditions...
Nevikata.
Nevikata, c'est bien ça. Pierre-Antoine Donnet, Survivre libre. Ils font partie du voyage. Elvira Masson et Jérôme Gagnès, bonjour à tous les deux.
Bonjour à toutes et tous.
Bonjour à tous.
Je vous apportais des douceurs japonaises venues de Touraine qui sont très populaires à Taïwan.
Absolument. Jérôme?
Eh bien, on va faire le lien entre la région d'origine de Pierre-Antoine Donnet et cette cuisine fascinante qui est la cuisine de Taïwan.
Parfait. Pour réagir et poser vos questions à la maison, envoyez-nous un email à onvadéguster@radiofrance.com et le podcast dont on va déguster est disponible sur l'appli de Radio France. Retrouvez tous nos contenus, adresses, infos pratiques, les très belles recettes taïwanaises de Scarlett Chen sur radiofrance.fr à la page. On va déguster.
France Inter, François-Régis Gaudry, on va déguster.
Subir, les Taïwanais ne le veulent plus. Certes, ils ont bien conscience de leur faiblesse, leur territoire est à la fois si petit et si proche d'une immense Chine communiste de plus en plus turbulente. Ils savent tout ce risque lancinant qui pèse sur eux d'un nationalisme incandescent qui, de l'autre côté du détroit de Taïwan, pourrait bien, un jour, dégénérer en une guerre. De cette confrontation probable à venir, l'élite politique taïwanaise tire une conclusion logique. Il sera peut-être aisé pour le régime de Pékin de prendre le contrôle de Taïwan par la force. Il lui sera en revanche bien plus difficile, sinon impossible, de s'approprier l'âme de Taïwan, qui prend corps et se renforce jour après jour autour de cette identité. Imposer ne signifie pas dompter et contraindre ne signifie pas vaincre. Voilà un extrait de votre très bel essai « Survivre libre ». Pierre-Antoine Donnet, on va voir justement dans cette émission que la cuisine, l'héritage culinaire, contribue de plus en plus à l'affirmation de cette âme de Taïwan, cette identité que vous évoquez. Juste avant d'explorer le patrimoine culinaire de Taïwan, est-ce qu'on pourrait, Pierre-Antoine Donnet, ensemble, resituer un peu cette île dont on entend souvent parler dans l'actualité? Et petite parenthèse, pour préparer cette émission, j'ai échangé avec Eddie Wang, qui est un artiste et cuisinier américain d'origine taïwanaise, qui a ouvert des restaurants taïwanais à New York, et qui me disait, encore aujourd'hui, la plupart des clients qui rentrent dans mes restaurants confondent Taïwan et la Thaïlande. Alors voilà, c'est pas gagné la connaissance de Taïwan.
Bah écoutez, c'est assez amusant parce que c'est exactement ce que me disait mon père il y a 47 ans, quand je lui ai dit « Papa, je vais à Taïwan ». Il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire en Thaïlande ?» Donc il a fallu que je lui explique. Et encore aujourd'hui, je pense qu'effectivement, c'est encore trop méconnu des Français, des Européens. Et pourtant, Taïwan, c'est quelque chose. Alors je vais essayer peut-être de présenter un peu ce qu'est cette petite île. Quand on regarde une planisphère, c'est un véritable confetti. Quand on le compare avec ces immensités de la République populaire de Chine, c'est presque rien. Or, ça n'est justement pas rien. Bien au contraire, et pour une multitude de raisons. La première, pour moi, c'est d'abord, c'est une véritable démocratie. Et c'est une démocratie qui est très jeune. Elle date en fait de 1988. C'était l'année où il y a eu les premières élections présidentielles au suffrage universel, hommes et femmes, bien sûr. Et à l'époque, c'était M. Li Donghui. Et autre révolution, c'était à l'époque le Kuomintang, et Li Donghui était natif de Taïwan. C'était vraiment un Taïwanais. Donc ça a tout changé. Et puis ensuite, pour moi, c'est un espace de liberté extraordinaire. Quand je le compare justement avec cette immensité de la République populaire de Chine, où là, je n'hésite pas à dire qu'on est en véritable dictature, à Taïwan, on est en pleine liberté. Et c'est liberté tous horizons, c'est-à-dire que c'est, comme vous l'avez dit, la résilience, c'est la tolérance. Et ça, c'est ce que je trouve que c'est une véritable force de Taïwan. C'est la tolérance politique. Il y a une véritable alternance. Il y a un multipartisme. Ils s'engueulent bien fort au Parlement, mais c'est très bien. C'est une tolérance philosophique. Vous avez tous les courants philosophiques du monde qui sont là et qui cohabitent véritablement en paix, en sérénité. Ensuite, c'est également une tolérance religieuse. Et là, c'est pareil, les religions, c'est souvent la porte ouverte à des excès, des violences, comme on le voit en ce moment d'ailleurs. Eh bien là-bas, non. Je n'ai jamais vu de violence de rue, quoi que ce soit. Ensuite, tolérance sexuelle. Je dois dire que c'est l'un des rares endroits en Asie où le mariage pour tous est inscrit dans la loi.
Et donc, là premier aussi, pays d'Asie à avoir légalisé le mariage gay.
Absolument. Et donc tout ça m'amène à dire une chose très simple, c'est que pour moi, Taïwan, c'est la forme la plus achevée de la démocratie pour l'ensemble de l'Asie. Bien devant le Japon, et a fortiori la Corée du Sud, je ne parle pas des autres.
Alors il y a évidemment la menace du voisin chinois qui est juste à côté. C'est troublant quand on regarde une carte. Vous avez parlé de confetti. La Chine continentale n'est qu'à 130 kilomètres.
Absolument. Et donc, quand on regarde justement cette géographie et aussi cette population, c'est Taïwan, c'est 23,5 millions d'habitants face à 1,4 milliard. Et la Chine, c'est 20 fois la France. Et Taïwan, c'est entre la Belgique et la Suisse. Donc si vous comparez, vous dites, mais on est devant David contre Goliath. Et qui a gagné? Donc qui gagnera?
Et au nord de Taïwan, qu'on a appelé très longtemps Formose, qui signifie la belle, hein, c'était lors de l'occupation,
portugaise.
La première occupation portugaise, ouais. Absolument. Le Japon n'est qu'à une centaine de kilomètres au nord de Taïwan, et précisons aussi qu'il y a un lien indéfectible entre Taïwan et le Japon, notamment pour des raisons historiques.
Alors oui, l'identité taïwanaise est le résultat des colonisations successives. Et donc la première a été celle des Hollandais, entre 1624 et 1662. Et qui d'ailleurs, cette colonisation hollandaise, c'était bien sûr pour faire de l'argent. Les colons, c'est souvent le cas, sinon toujours. Et donc, eux voulaient faire ce qu'ils avaient déjà fait à Java, en Indonésie, la canne à sucre. Et pour produire la canne à sucre, les populations autochtones, donc ceux qui étaient les premiers habitants de Taïwan il y a déjà des siècles et des siècles, ne voulaient pas travailler pour eux. Ça ne les intéresse absolument pas. Et ils ont donc fait venir des populations chinoises du Fujian. Et c'est de là que date l'arrivée réelle des Chinois. Contrairement à ce que dit la propagande de Pékin, qui dit « Taïwan a toujours fait partie de la Chine depuis la nuit des temps », ce qui est évidemment une pure propagande et un gros mensonge. Deuxième colonisation, effectivement, les Japonais. Pendant un peu plus de 50 ans, entre 1895 et 1945. Mmh. Et troisième colonisation, que je nomme comme ça, c'est l'arrivée du Kuomintang en déroute face aux communistes en Chine, avec à sa tête Chiang Kai-shek. Et je parle d'une véritable colonisation, parce qu'effectivement, il y a eu des violences terribles qui ont suivi son arrivée. Donc, l'identité taïwanaise, c'est le résultat de ces trois colonisations qui ont forgé une puissance extraordinaire qui est l'âme de Taïwan.
Pierre-Antoine Denet, transition toute faite vers la cuisine, puisque l'arrivée de Chiang Kai-shek en déroute à Taïwan en 1949 serait à l'origine de ce mythe culinaire de Taïwan, puisqu'il aurait emmené avec lui des millions de gens, mais il aurait aussi emmené des centaines de cuisiniers qui auraient, en quelque sorte, enraciné le savoir-faire culinaire chinois à Taïwan. Vous croyez à cette hypothèse ?
C'est-à-dire que par la force des choses, Chiang Kai-shek est arrivé avec environ 2 millions de personnes. Et sur ces 2 millions, il y avait des centaines de milliers de soldats, mais aussi toute une variété de personnes qui venaient de différents horizons, dont aussi, ma foi, des chefs cuisiniers, et qui venaient de toutes les provinces de Chine. Donc, ce qui fait que vous retrouvez à Taïwan la cuisine du Sichuan, qui est très épicée, celle du Fujian, évidemment, qui est améliorée encore à Taïwan, et toutes sortes de choses.
Et c'est ça qui est toujours passionnant avec la gastronomie, évidemment, c'est que c'est une formidable grille de lecture de l'histoire d'un peuple. Et comme le disait François Hou en accroche de cette émission, la cuisine taïwanaise, ce n'est pas la cuisine chinoise, ce n'est pas la cuisine japonaise, ce n'est pas la cuisine occidentale, ce n'est pas la cuisine aborigène, c'est tout cela à la fois. Vous êtes d'accord, Scarlett Chen, pour dire que la cuisine taïwanaise, c'est vraiment une cuisine aux influences multiples?
Oui, pour moi, la cuisine taïwanaise, on a l'histoire avec l'aborigine. Après, on est influencé avec les Européens, Japon, la Chine, les États-Unis. Mm-hmm. Donc, je vais dire, toutes les cultures, on va mélanger dans cette île. Mm-hmm. Donc, je vais dire, la cuisine taïwanaise, on est la cuisine très créative, on est très jeune et on est encore en construction.
C'est ça, c'est une cuisine qui est en mouvement, c'est pas une cuisine figée. Et c'est ça la bonne nouvelle, c'est que c'est une cuisine qui continue à se nourrir évidemment d'influences historiques, mais d'influences aussi très modernes. Moi je suis allé à Taïwan, je m'en suis rendu compte à quel point d'ailleurs de nombreux Taïwanais allaient en Europe, souvent même en France, se former à la cuisine occidentale et revenaient ensuite, il y a d'ailleurs des étoiles Michelin, hein, à Taïwan, et revenaient ensuite réinterpréter leur identité culinaire, celle de Taïwan, à l'appui des techniques et des savoir-faire qu'ils ont appris en Occident, à l'étranger, en Europe, et je le disais, en France. On va continuer à explorer ensemble cette passionnante identité culinaire. Je vous signale, amis auditeurs et auditrices, que la cuisine de Taïwan est au menu du 12e numéro de Cometa, une excellente revue bimestrielle dont la ligne éditoriale est de, ouvrez les guillemets, raconter le monde qui bascule. J'ai eu la joie et l'honneur de parrainer ce nouveau numéro que je tiens à la main avec une très belle couverture autour de la géopolitique de la gastronomie. Faites la cuisine, pas la guerre, en voilà un beau titre. J'ai signé notamment un long reportage sur l'identité culinaire de Taïwan, qui est donc cet outil de soft power très important face à l'ogre chinois. Mais on peut aussi trouver dans ce MOOC, dans cette revue, une enquête sur le sucre, une histoire coloniale, signée Mathilde Damoiselle. La famine utilisée comme une arme politique, c'est une enquête de Ronnie Broman, très intéressante. Ou encore un dossier passionnant mitonné par une certaine Elvira Masson.
Tiens. s'appelle « Des recettes et des vies ». Pour l'occasion, j'ai recueilli les récits et les témoignages de cuisinières, de cuisiniers, d'auteurs, d'autrices qui, chacun et chacune à sa manière, racontent l'histoire d'une trajectoire, d'un déplacement, parfois d'un exil depuis l'Inde, la Palestine, le Nigeria, le Brésil ou encore l'Ukraine. Zuri Camille de Souza et son Dal, Olia Hercules et le Bort ukrainien, Fadi Katan et la Soura, Remote Tigami et l'Assaro, Alessandra Montagne et la Rose des Feijao. J'ai eu l'honneur de recueillir à la fois leurs paroles et leurs recettes.
Vous pourrez aussi, il y a beaucoup, beaucoup de choses à manger dans cette revue. Elle est vraiment passionnante. Et il y a aussi un entretien très intéressant, captivant, avec notre ami historien Loïc Bienassi, qui officie très régulièrement à ce micro. Voilà, Cometa, faites la cuisine, pas la guerre, un numéro à retrouver en kiosque ou à commander en ligne. Sincèrement, on vous en recommande très chaleureusement la lecture. Toutes les infos sont à retrouver sur notre site radiofrance.fr, à la page On va déguster. On se retrouve dans un instant pour affréter ce voyage culinaire à Taïwan derrière la console. Laurent Thomas, Jérôme Ragano, Fabrice Ribault, on se retrouve juste après Girl Get Up de Dutchy et Sisa, choisi par l'ami Djoubaka sur notre playlist. Bon voyage et bon appétit sur France Inter.
On a rooftop, smoking blue dream on my Kama Sutra. Life is but a dream for a dark skinned bitch like me. Life gets dark when you're dark like me. Times get hard with a heart this big. Mouths get fed when your ass this thick. Count my sheep, then I catch my Z's. I don't read y'all tweets, I delete y'all threads. Don't need weed to be 10 feet tall. I don't need keys when I knock down walls. Been pushing peace since bathroom stalls. Why sell my soul when I know I'm God? I be in the bag levitating through meditation. Need me girl, get up. Taking on all confrontation. Fuck a limitation. Need me girl, get up. Somehow I know that all everything is mine. Mine.
All that industry plant shit whack. I see it on the blogs. I see you in the chats. You suck every rap nigga dick from the back. But what's the agenda when the it girl black? Y'all can't fathom that I worked this hard. And y'all can't fathom that I earned this chart. Y'all can't stand my vibe cause I'm anointed. All y'all evil assholes just annoying. Blame it on the fame, blame it on the coke. Blame it on the douce, got you feeling low. Y'all wanna believe I'm on drugs and forsaken. They won't credit me so they blame it on Satan. Blame it on my label, blame it on my team. End of the day, everything is on me. Miss Bag Lady, little messiah, little miss hire them hoes, then fire them.
I be in the bag levitating through meditation. Need me girl, get up. Taking on no confrontation. Fuck a limitation. Need me girl, get up. Somehow I know it all, everything is mine, mine.
On va déguster sur France Inter.
Salut, salut François Régis. Est-ce que tu pourrais te présenter ?
Écoute, je m'appelle Fabio, toulousain à la base. D'abord, j'étais étudiant en commerce international. Puis je suis tombé amoureux, j'ai appris le chinois. Et puis grâce à un show qui était sur tous les soirs à la télé ici, je suis devenu connu. Et puis ça fait 15 ans maintenant que je suis ici à Taïwan, à Taipei. Et puis je me sens presque taïwanais.
Mais je vois, mais t'es même carrément une star. Les regards qui se tournent vers toi. On est dans quel quartier ici ?
Alors ici, on est à Yongkang, qui se situe vraiment dans le centre de Taipei. C'est un quartier qui s'est développé à la fin des années 1800, pendant la colonie japonaise. C'est pour ça qu'on trouve pas mal de maisons japonaises en bois dans les petites ruelles qui aujourd'hui sont rénovées en cafés, restaurants, galeries d'art. Et puis après, je pense que tu as entendu parler de Din Tai Fung. Voilà, le premier Din Tai Fung qui a ouvert ici. Alors, c'est autant prisé par les touristes que par les locaux. Il y a plein de petits délices. Là, en face de nous, tu peux voir le Mango Swabbing. C'est une montagne de glace pilée avec des morceaux de mangue sucrée et un petit coulis de lait concentré dessus. On peut retrouver le beef noodle et puis le Chongchuabing qu'on va essayer. Une sorte de petit pancake avec des petits oignons verts. Plié, replié, étiré. À la fin, ça fait un peu comme une pâte feuilletée, aérée. Et puis ça se mange ça en fait, quoi. Allez, on y va.
Ah ouais, c'est là juste à l'angle. Mais voilà. Y a une queue de dingue. Mais
écoute, du matin au soir, tu as 15-20 minutes de queue. Ça vient à la base du nord de la Chine. Alors tu peux le voir, donc la pâte elle est déjà préparée. De la farine, du sel, des petits oignons verts. Généralement, les oignons viennent de Yilan, qui sont sur la côte est. Et donc la pâte est aplatie. Et puis après, elle est frite après sur la plaque chaude. Moi, je vais prendre avec basilic et un œuf dedans.
Moi, je veux juste l'original pour voir ce que ça a de plus simple.
Un号原味的，然后一个三号那个九层塔跟蛋。
Ça c'est un spectacle, hein. On voit carrément la plaque chauffante avec les pancakes dessus en train de grilloter.
Pour un coup avec les spatules, de le faire en fait revenir et de l'aérer un petit peu dans leur sauce maison au soja.
Voilà. Alors ça y est, donc là les pancakes sont dans leur petit sachet en papier, c'est ça?
Donc le mien c'est avec une sorte de petite omelette à l'intérieur. Et toi tu as la Yuanwei. Et puis on peut continuer à marcher dans la rue.
Carrément, génial.
Tu as plein de petits magasins comme ça à notre droite, où ils vendent des fruits séchés. Sur la gauche, des petits gâteaux, souvenirs aussi à ramener, des habits traditionnels. Bah, attention, hein, brûle pas.
Il y a un côté un peu grillé à l'extérieur, c'est très moelleux à cœur.
C'est des petits plats qui payent pas de mine, et au final, en bouche, c'est une explosion de saveurs et c'est un régal.
C'est délicieux.
C'est à peu près 2,50€, même pas.
Les deux?
C'est ça.
Pour les Français et les Françaises qui viennent à Taïwan, tu nous redonnes le nom en mandarin de cette spécialité?
Cong chua bing. Mais pour moi, la cuisine taïwanaise, que tu vas dans un restaurant typique comme les zhechao, t'as plein de petits plats à partager que tu retrouves dans la cuisine taïwanaise. Quoi.
Merci Fabio pour cette belle expérience.
Eh bien, écoute, c'est vraiment un plaisir. Il faut vraiment s'infiltrer dans les petites ruelles, autant dans les découvertes culinaires que la chaleur humaine. C'est ça qui fait la beauté de Taïwan.
Scarlett Chen et Pierre-Antoine Denet, vous connaissiez Fabio Grandjean?
Oui, il est très passionné pour partager la cuisine taïwanaise.
Un Toulousain installé depuis 15 ans à Taïwan qui est devenu une vraie star. Alors il a un show culinaire à la télé. Il est également, comme il est assez beau gosse, il est, moi je voyais, enfin il déplaçait les foules dans la rue. C'était carrément impressionnant. Et on a goûté ensemble cette galette aux oignons verts qui répond au nom de...
Cong chua bing.
Cong chua bing. Ça, c'est cette galette d'oignon vert. Il paraît que vous la faites à Paris, chez Beaupomme.
Oui, c'est ça, parce que c'est la recette que j'adore, le cong chua bing. Je peux manger tous les jours.
Et c'est très connu. C'est un encas comme ça, un emblème de la street food qui est très connu dans les rues de Taïwan.
Oui, en fait, cette recette, il vient du nord de la Chine. Mais on a changé un peu, on a été modifié pour devenir une galette fouettée. En fait, le cong chua bing, c'est un peu comme vous faites les massages. Quand il est bien croustillant, vous tapez.
C'est ça. Moi, je voyais comme ça, avec des ustensiles, ça tapait pour l'aérer, la feuilleter. Pendant la cuisson sur la plaque chauffante, cette galette est absolument martyrisée. Mais c'était pour la bonne cause. Fabio Grandjean, notre Français installé à Taipei, évoquait cette chaîne incroyable, évidemment je m'y suis attablé, Din Tai Fung. Là on parle vraiment d'un restaurant taïwanais qui connaît un succès absolument mondial. 144 succursales dans le monde entier, il n'y a pas de restaurant à Paris, il y en a à Londres. En revanche, c'est la seule destination européenne où il y a des Din Tai Fung. Et ils sont spécialisés notamment dans les raviolis, c'est vraiment le restaurant incontournable. Alors là encore, on est sur des raviolis d'origine plutôt chinoise, mais c'est cette chaîne taïwanaise qui a popularisé notamment le Xiaolongbao, vous savez, ce ravioli juteux qui est rempli de bouillon bien brûlant.
Tu brûles la bouche.
Avec tout un protocole d'ailleurs pour le déguster. Et là, on peut en déguster dans le monde entier grâce à l'excellence, à l'exigence, au savoir-faire d'une société taïwanaise, Pierre-Antoine Denet.
Ben, je trouve que c'est effectivement une success story assez extraordinaire, dans la mesure où il a commencé tout petit, et il a essaimé à travers le monde. Et le succès est tel que, je pense que vous l'avez vous-même vu, c'est qu'on ne peut pas réserver une table, donc on se pointe. Vous avez un écran qui vous donne votre place et vous pouvez attendre une demi-heure ou une heure et demie. Parce que ces files d'attente sont considérables, le succès est tel.
C'est incroyable. Il y a d'ailleurs un atelier vitré où vous voyez les cuisiniers s'affairer en train de plier chaque ravioli au gramme près et en train de replier le Xiaolongbao notamment avec 18 plis. Pas un de plus, pas un de moins, c'est incroyable le succès de cette enseigne Scarlett Chen.
Oui, en fait, Din Tai Fung, il fait le meilleur xiaolongbao absolument. Et pour moi, la chose plus surprenante, c'est que n'importe quand où vous mangez les xiaolongbao, c'est toujours la même qualité. Et donc ça, pour moi, c'est pour un restaurant, c'est très très difficile pour rester ce niveau. Après, Din Tai Fung, pour moi, il y a les autres choses. C'est excellent, c'est que son service, c'est excellent.
Service incroyable.
Oui. Et en fait, à Taïwan, il est très connu pour... ils sont bien traités, les employés. Donc, tous les employés, ils travaillent avec les souris. Après, ils sont très fiers.
Il paraît qu'ils ont des très bons salaires, d'ailleurs.
Oui, je pense.
Ce qui fait le succès de cette enseigne aussi, c'est qu'il y a tout un système de promotion, des ressources humaines. C'est vraiment un restaurant assez admirable.
Même, vous savez, le massage, si vous êtes fatigué. Vous avez les massages, vous avez pour vous après le travail.
Ah, ça, j'ai pas eu droit à un massage. Moi, je me suis contenté des...
Vous étiez pas fatigué, François.
Je me suis contenté des Tiao Long Bao. Je vous parle même pas du rapport qualité-prix. C'est hallucinant. C'est quelques euros pour manger un délicieux panier vapeur de raviolis. Ah non, mais quel bonheur. Il y a même des robots guidés par l'intelligence artificielle qui viennent vous servir. Enfin, c'est... Non, mais je vous jure, c'est vraiment incroyable. Un petit mot sur les night markets. Ce sont vraiment ces endroits qu'on trouve un peu partout à Taipei, mais également dans tout Taïwan, qui sont ces marchés de nuit entièrement dédiés à la cuisine, à la street food. Et François Hou, le vice-ministre des Affaires étrangères, me faisait cette remarque sociologique très intéressante. Il y a partout à Taïwan des marchés de nuit où toutes les générations se retrouvent pour trinquer à la bière, pour parler politique, pour rire, pour manger. Ce sont un peu les forums de la cité, les hauts lieux de notre démocratie. Night markets égale liberté à la taïwanaise. Vous êtes d'accord ou pas, Pierre-Antoine Donnet ?
Ben entièrement, ce sont des lieux de convivialité. Vous voyez des jeunes, des vieux qui sont tous ensemble et dans une joie de vivre. Et d'ailleurs, ce terme « joie de vivre », ça caractérise Taïwan aujourd'hui. Donc, on le trouve dans ces marchés de nuit, les night markets. Et moi, je me souviens, donc, il y a maintenant 46 ans, il y en avait déjà beaucoup, bien sûr, et ils étaient encore plus grands qu'aujourd'hui. C'était une société qui était à l'époque un peu différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Et l'un des plus réputés était celui à côté du temple de Longshanse, qui est toujours là, et le night market aussi. Et à l'époque, je me souviens, il y avait... évidemment, toutes sortes de recettes. Il y avait des choses qu'on mange ou qu'on ne mange plus. Et il y avait notamment les recettes autour du serpent. D'ailleurs, Longshanse, c'est le temple de la montagne du serpent. Mais dans ce night market, à côté, il y a toujours la rue du serpent. Et dans cette rue du serpent, je me souviens, on voyait des choses incroyables. C'était un peu le quartier des plaisirs à l'époque. Et donc, on voyait les ruraux qui se pointaient comme ça, le soir, comme ça, plus ou moins en catimini. Et on leur servait du sang de serpent. Et de la bile de serpent. Et la bile du serpent a des vertus aphrodisiaques. Et donc, ils ingéraient ça. On les voyait changer de couleur d'un seul coup. Et puis partir à tout à l'heure là où ils allaient et où là ils voulaient aller. Alors depuis, en 91, la prostitution est interdite officiellement. Donc, ce n'est plus le cas. Mais par contre, la vitalité de ces night markets est toujours là. Elle est incroyable.
Ah oui.
On la voit aussi à Hong Kong, mais c'est sans commune mesure.
C'est absolument incroyable. J'ai notamment dégusté cette spécialité dans le night market de Ningxia, qui est vraiment considéré comme l'un des plats nationaux de Taïwan. Si je vous dis Scarlett, omelette aux huîtres.
Ouais, donc c'est, je vous dis, c'est notre street food national.
Ah oui, voilà, la street food nationale de Taïwan, l'omelette aux huîtres. Alors, il y a un truc qui plairait à ma voisine de gauche, Elvira, parce que je sais
Allez-y.
Qu'on a les mêmes goûts là-dessus. C'est que c'est évidemment un truc avec des œufs, de la salade qui est cuite comme ça, des bonnes huîtres bien charnues, des huîtres locales évidemment, et un truc qui rend vraiment la texture, les Anglais diraient chewy, la texture un peu rebondissante. Il y a de la fécule à l'intérieur.
Oui, c'est les farines de patate douce.
La farine de patate douce, on va en parler d'ailleurs.
Mais l'huître est cuite.
Tout à l'heure, et l'huître est cuite, alors ça se passe encore sur une plaque chauffante. C'est retourné comme ça, il y a une vraie chorégraphie manuelle des cuisiniers. C'est absolument impressionnant, sachant que je vous ai mis mon carnet d'adresses, évidemment. Si allez voyager à Taïwan, vous vous régalerez. Et il y a tout mon carnet des meilleures adresses sur radiofrance.fr, à la page, on va déguster. L'huître, évidemment, un produit de la mer, Pierre-Antoine Donnet, car la cuisine taïwanaise est quand même très, très tournée vers la mer. Beaucoup de poissons, beaucoup de fruits de mer, et ça, c'est évidemment lié à une raison géographique.
Bien entendu, les océans sont tout autour, donc ceci explique cela. Mais pour rebondir un peu à ce que vous disiez, Madame Chen, les recettes attirent les foules, et c'est toujours le cas, et surtout... une recette peut garder dans la conscience collective de génération en génération, une véritable authenticité. Et lors de mon dernier séjour, donc je suis rentré mercredi, mes amis, un couple franco-taïwanais, j'habitais ce qui s'appelle Shenkang, donc c'est la banlieue de Taipei. Et cette localité, où il y a quelques dizaines de milliers d'habitants, est très connue à travers la totalité de l'île pour une recette, qui est le mapo tofu. Alors, c'est vrai que l'odeur peut ressembler un peu au Munster, un peu avancé, en Alsace, mais il y a l'odeur et la saveur. Et la saveur du mapo tofu est extraordinaire. Et donc, j'ai eu là l'occasion d'en manger dans cette rue qui est connue à travers Taïwan pour ses restaurants de mapo tofu.
Absolument. Il y a vraiment des spécialités qui sont travaillées par plein d'artisans différents. Alors, en parlant de produits de la mer, de cette cuisine marine, on a sous les yeux une excellente recette que Elvira et Jérôme ont déjà goûtée. Scarlett Chen, de quoi s'agit-il ?
On va manger pour le préparer le calamar avec sauce 5 saveurs.
5 saveurs. Alors donc il y en a 5. Il y a des calamars légèrement étuvés, il y a une petite sauce à côté dans laquelle on fait trempette. Vous êtes en train de tourner de l'œil carrément, Elvira.
C'est complètement dingue.
Et ben voilà, c'est voilà. La cuisine de Taïwan, je vous l'avais bien dit.
Est-ce que vous avez goûté c'est quoi la 5 saveurs ?
Ah, alors essayez de deviner un peu ce qu'il y a. Elle veut jouer, Scarlett.
C'est un peu sucré ?
Oui.
Mmh. Oh. C'est un peu piquant ?
Oui.
Il y a beaucoup d'ail, beaucoup d'ail.
Sweet and sour, acidulé. Mmh. Il y a presque un petit côté un peu ketchup.
Après, le ketchup avec les sucres, il donne un peu les goûts de umami aussi.
Complètement.
Oui, avec
le... complètement. Oui, ça prend un peu l'arrière de la mâchoire là.
C'est hyper équilibré. Surtout, c'est ça qui est très très bon, c'est que hyper à aucun
addictif.
Moment le sucre ne prend le pas. Il y a un très bel équilibre entre l'acidité et le sucre. Le piment vient apporter évidemment beaucoup de relief. Ça fait quelque chose qui est très équilibré. Moi qui ne suis pas toujours très fan de ce qui est sucré-salé, là je dois reconnaître que j'ai plongé dedans.
Il y a assez de piment pour vous ou pas, Jérôme Gagnon ?
Non, pas tout à fait. Moi j'aime bien quand il y a beaucoup de piment.
Tu n'as pas ajouté beaucoup. Hein.
Il y a également cette note très agréable, très fraîche et florale, un peu piquante du gingembre, comme ça qui a été émincé. Comment on fait cette sauce ?
En fait, il est très simple. On va préparer le kitcha, le finet, le sucre. Après, il y a les coriandres, les gingembre et beaucoup d'ail. On va juste bien mélanger. On peut laisser dans le frigo pendant un moment. Pour les goûts, il peut bien le combiner.
Tout est pilé ?
Tout est... Oui, tout est haché.
Cru ?
Cru, oui.
Haché dans un mortier ou dans un hachoir ?
Oui, oui, c'est ça. Après, faut juste préparer votre calamar en morceaux.
Oui.
Après, 15 secondes dans l'eau très bouillante.
Oui.
Et tout de suite, vous pouvez mettre dans l'eau glacée. Après, bon, c'est bon. Vous pouvez manger avec la sauce.
Parce que là, on a des lamelles d'un calamar qui a juste été caressé par la cuisson, qui est donc froid. Et ensuite, effectivement, on fait trempette des allers-retours dans son bol de sauce. Et là, c'est l'éclate.
Et ce calamar est extra parce qu'il est comme ça élastique, mais moelleux à la fois. C'est ça qu'il ne résiste pas trop longtemps sous la dent aussi, c'est vraiment formidable.
Oui, c'est ça, les 15 secondes, c'est parfait pour la texture un peu élastique. On aime bien la texture comme ça.
Cette recette est en plus assez facile à faire.
Oui.
Et pour un résultat tout à fait bluffant. Est-ce que ce calamar aux 5 saveurs a un nom en mandarin, Scarlett Chen ?
C'est Wei Tou Chou.
Wei Tou Chou ?
Oui.
Vous aimez ou pas, Pierre-Antoine ?
Ah oui, j'adore.
Vous êtes reparti à Taïwan, là ?
Je pars demain.
Bah écoutez, c'est magnifique. Merci beaucoup, Scarlett, pour cette première recette que verser dans nos verres. Pour déguster la cuisine de Taïwan en général et cette recette de calamar aux 5 saveurs en particulier, tentative de réponse de Jérôme Gagnez.
On va déguster sur France Inter.
Pas mal.
Ça n'a pas marché.
Bah, c'est quand même un joli plop.
C'était pas terrible, mon plop. Bon, mais le vin est bien mieux que mon plop. Alors évidemment, c'est très compliqué de faire un accord avec une sauce de ce type parce qu'elle est très puissante, elle est très intense, elle est très persistante. Il y a à la fois du sucre, de l'acidité, il y a du piment. Il est en bonne quantité malgré tout. Et donc, bah, il faut trouver un vin qui va arriver à résister à tout ça. Alors c'est un peu une gageure. Mais il y a une région, en fait, vers laquelle on peut se tourner assez spontanément quand on parle d'accords mets et vins avec l'Asie, la cuisine asiatique, et en particulier avec une cuisine qui a une tendance un petit peu à la fois au sucré-salé et aussi au caractère pimenté, eh bien, c'est l'Alsace. L'Alsace pour deux raisons. D'abord parce que il y a dans cette région un cépage tout à fait admirable qui aurait tendance un petit peu à disparaître aujourd'hui, et c'est bien dommage, qui est un cépage qui s'appelle le Gewürztraminer. eh bien, si on analyse la signification de ce terme, Gewürztraminer, c'est un Traminer épicé. C'est donc un cépage de la famille des Traminer, et cette variété de Traminer est un Traminer épicé. Et quand on met le nez dans le verre de ce merveilleux Grand Cru Pfingstberg Gewürztraminer cuvée Les Terrasses du domaine Camille Braun, eh bien, on a précisément ces notes de gingembre. Ah ouais. On a des notes de fruits exotiques, mais on a vraiment le gingembre. Et quand j'ai préparé cette émission, je me suis replongé dans mes notes de dégustation. J'ai dégusté ce vin au mois de décembre dernier, pour tout vous dire, grâce à François Chidel, un fantastique vigneron de Loire, chez qui Quentin Antini, qui a repris le domaine avec sa compagne Annabelle Braun, la fille de Christophe et Marie-Laure Braun du domaine. Et bien donc, Quentin me faisait goûter ce vin. J'avais pris en note et je me suis dit, mais c'est exactement ce qu'il me faut pour cette recette. Et je recherchais en fait à la fois la puissance et la richesse pour faire face à ce sucre. Et je cherchais aussi la richesse en sucre, parce qu'en fait c'est un vin doux que je vous propose aujourd'hui pour faire face au piment. C'est un vin doux, mais dont l'équilibre est absolument admirable, parce que l'acidité est présente, parce que le sucre n'est pas saturant, le sucre ne prend pas le pas sur le reste. L'aromatique rejoint les lamelles de gingembre que nous avons dans ce plat. Le caractère très caressant de la texture du calamar, elle rejoint la texture très caressante de ce vin. Et le sucre présent, il y en a mine de rien, il y a 49 grammes de sucre résiduel. On peut dire c'est beaucoup. En réalité, quand l'équilibre est là, parce que ces terroirs marno-calcaires du Pfingstberg, ce sont des terroirs qui donnent une acidité naturelle très élevée. Et c'est ça qui est intéressant, c'est cet équilibre. Donc voilà, on a ce très beau vin. Je pense que ça fait un très bel accord.
Ah ouais.
C'est un accord très sensuel, très amoureux, quelque chose de très complémentaire. Je termine simplement en vous disant que le domaine Camille Braun est situé à Orschwihr, entre Colmar et Mulhouse. Donc c'est au sud de Colmar. Allez-y. C'est une très très belle région que je connais un petit peu. C'est absolument sublime. Allez au domaine Camille Braun, vous goûterez pas seulement ce très beau vin, vous en goûterez beaucoup d'autres qui sont tout aussi excellents. Je vous rappelle donc que c'est un Grand Cru Pfingstberg Gewürztraminer Les Terrasses 2023 à 32 € du domaine Camille Braun.
Merci pour cet accord d'amour et je vous confirme que ça se passe très très bien en bouche.
Oui,
hein.
Oui.
Il y a un dialogue tout à fait fécond entre le verre et l'assiette. Un grand merci Jérôme Gagnès. Dans un instant, attention, vous dévoile les secrets de la spécialité la plus connue de Taïwan dans le monde. À vous de deviner laquelle.
Thank you.
Journey de Cyril Lee, grande figure pop de la scène musicale taïwanaise. Elle a même été invitée à se produire lors de l'investiture du président de Taïwan, Lai Ching-ti, en 2024. La gastronomie de Taïwan au menu de notre émission du jour.
On va déguster.
The menu, please.
François-Régis Gaudry sur France Inter.
François-Régis, je vais t'emmener goûter la spécialité gastronomique de Taïwan la plus connue du monde. T'as hâte ?
Ouais, j'ai une petite idée, mais...
Ok, tu vas voir.
Bonjour !
Hi, ni hao, 欢迎光临春水堂。
Bonjour, je suis manager d'ici, on est 春水堂, et bienvenue de vous accueillir.
这是我们发明的珍珠奶茶。
Donc c'est bien le bubble tea qu'on a inventé.
Ça a été inventé quand le bubble tea ?
在1987年的时候。
C'est en 1987 que notre patron, avec son chef, parce qu'en fait, à la base, ils aimaient beaucoup tapioca. Et ils ont l'idée d'ajouter le tapioca dans le thé au lait. En fait, c'est le pourcentage parfait du thé noir avec du lait, avec tapioca.
Des perles de tapioca, c'est ça ?
C'est un sous-sous. Exactement. Je vais vous montrer comment on prépare un super bon bubble tea. Donc maintenant, vous voyez, on pose notre verre et on va mettre le tapioca qui habite dans le frigo.
C'est des grosses perles noires.
Maintenant, on a sélectionné une gamme haute pour notre thé noir. Et on ajoute le poudre de lait. On va le fouetter. Il va ajouter des glaçons.Maintenant, on va ajouter le sirop de canne.
然后再由我们专业的调茶师做手摇。
Maintenant, notre maître de thé il va shaker le thé au lait. Donc, il va verser le thé.
C'est incroyable la mousse que ça fait.
对，它就是完美的茶。
Pour nous, c'est le parfait résultat.
将珍珠跟茶奶完美。
Il va bien le mélanger dans le verre pour que ça soit.Un bubble tea parfait.
Un bubble tea se déguste toujours glacé ?
Oui, on a aussi la version chaude.
Mais on a aussi la version chaude.
Comment on dit en mandarin bubble tea ?
珍珠奶茶.
珍珠奶茶.
没错, 没错,
Exactement,
很标准.
Vous avez une prononciation parfaite.
Alors, on prend une paille. J'adore.
Le bonheur.
Et en plus, c'est pas trop sucré à Taïwan. Est-ce qu'elle est au courant que le bubble tea a fait le tour du monde ?
Oui, et puis j'en suis très contente parce que c'est, ça vient de notre invention.
Merci, merci. Un bubble tea à Taipei, la capitale de Taïwan, en compagnie de ma fixeuse que je remercie pour la traduction, Inès Chen. Le bubble tea, ce thé à bulles qui a fait le tour du monde, qui est devenu une espèce de doudou comestible pour de très nombreux adolescents dans les capitales occidentales. Pierre-Antoine Donnet, vous pensez quoi de ce phénomène ?
Je trouve que c'est très représentatif de ce que fait Taïwan comme soft power. C'est-à-dire, ils sont d'abord très modestes, si on les compare aux Français qui sont toujours donneurs de leçons. Eux ne le sont pas, mais ils travaillent et ils inventent, ils améliorent. Et donc, c'est un élément de soft power. Alors, je crois que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'en fait, ça a été inventé il n'y a pas très longtemps, en 1980,
oui.
À Taïwan.
Mm-hmm.
Et que depuis, donc, ça a explosé partout. Et que donc, c'est l'une des marques de fabrique de Taïwan.
Avec ce paradoxe, c'est qu'on ne sait pas forcément que c'est taïwanais. Il y a une culte, il y a une culture de la discrétion à Taïwan. On se demande si c'est pour ne pas trop exciter le voisin. Taïwan avance à pas feutrer, un soft power culinaire absolument incroyable, sans forcément que l'on démêle la vraie identité taïwanaise. Le bubble tea, les ados savent, ils pensent que ça vient de Chine, quoi.
Mais moi, je ferai un parallèle avec ce géant des semi-conducteurs TSMC. C'était à la base deux ingénieurs taïwanais qui sont partis aux États-Unis, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, pour étudier, pour apprendre. Et ils ont appris notamment tout ce qui était haute technologie et les semi-conducteurs. À l'époque, c'était des marques américaines, point à la ligne. Et ils sont rentrés à Taïwan et discrètement, ils se sont dit d'abord, il faut qu'on fasse tout nous-mêmes. Et donc, peu à peu, dans un grand silence, ils ont amélioré pour ensuite peu à peu s'affranchir de leur tutelle américaine. Et après, devenir le numéro un, mais alors le géant mondial.
Et oui.
Il faut savoir que pour les semi-conducteurs de dernière génération, donc c'est 5 nanomètres et moins, c'est 93% de la production mondiale.
Et oui, ça veut dire qu'aucun des smartphones que nous avons partout dans le monde ne pourrait fonctionner sans les semi-conducteurs de Taïwan.
Voilà.
Secteur stratégique absolument incroyable, ce qui d'ailleurs participe à l'excitation évidemment du voisin chinois. Vous savez du bubble tea chez Bopom ou pas ?
Pas maintenant.
D'accord.
Désolé.
Mais non, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup d'adresses de bubble tea que l'on peut trouver. Ça nous emmène tout doucement vers les desserts taïwanais. Là aussi, Taïwan, paradis du sucré. Alors, Elvira Masson, vous faites un petit pas de côté. Vous vous glissez comme ça, en douceur, vers les desserts taïwanais.
On va déguster sur France Inter.
Ça n'a pas pu vous échapper, que ce soit au supermarché, à côté des crèmes glacées à la caisse des cinémas, les mochi glacés sont partout.
Et oui.
On compte parmi les douceurs préférées des plus jeunes d'entre nous. Enfin, je veux dire, beaucoup plus jeunes que nous, j'entends. Ça a été très, très popularisé par TikTok. C'est une enveloppe de pâte de riz gluant sucré qui contient un cœur de crème glacée, qui est la variante contemporaine du plus traditionnel mochi, donc pas glacé, tellement populaire lui aussi en France qu'il est entré dans le dictionnaire en 2021.
C'est vrai.
Sous cette définition, spécialité japonaise, petit gâteau sphérique à base de pâte de riz gluant, généralement aromatisé ou fourré de pâte de haricots rouges ou encore dans la cuisine fusion occidentale de crème glacée. Voilà, c'est un peu allusif cette définition parce qu'en vrai, quand on dit mochi au Japon, on entend simplement la pâte de riz gluant pure que l'on déguste notamment à l'occasion du Nouvel An. Il s'agit de riz gluant nature que l'on martèle dans de gros mortiers en bois traditionnellement.
Chaque année, il y a d'ailleurs beaucoup
année,
des voilà. Japonais qui s'étranglent. Hein.
Exactement. Ouais. Jusqu'à obtenir une pâte lisse. Et on le déguste trempé dans de la sauce soja, version salée, ou avec de la confiture de haricots rouges, anko. Mais mochi désigne aussi toute une famille de wagashi. Wagashi est le nom que l'on donne à la pâtisserie traditionnelle japonaise, notamment le daifuku. En fait, ce qu'on mange en France sous le nom de mochi, c'est le daifuku mochi, qui est cette spécialité préparée à partir de mochi, fourré et de forme ronde. Cette précision sémantique, je la dois à Mathilda Mott, qui me l'a rappelé. Elle est la fondatrice de la Maison du Mochi, qui depuis 10 ans confectionne de façon artisanale depuis son atelier en Touraine, à Saint-Martin-le-Beau. Jérôme, ça vous parle ?
Bah oui, Saint-Martin-le-Beau.
C'est la l'appellation, région de...
l'appellation Mont-Louis.
Absolument. Donc elle est à Saint-Martin-le-Beau, et depuis sa Touraine, elle confectionne des mochis, depuis lequel elle fournit 4 boutiques. C'est un mini-empire, en quelque sorte, qu'elle a constitué. 3 adresses à Paris et 1 à Lyon. Et elle produit ainsi la crème des daifuku, à la finesse et à la texture inégalée. Alors ici, vous avez devant vous, ou dans la jolie boîte qui doit être sur la table, quelques spécimens. Les daifuku classiques. Qui a ses âmes noires ?
Moi, non.
Il y a ses âmes noires, il y a anko, haricot rouge, matcha... Et elle combine donc ce savoir-faire ancestral qu'elle a découvert et appris patiemment au Japon avec le meilleur du riz gluant
wow.
qu'elle fait venir de Thaïlande, avec des haricots bio qu'elle fait venir d'Italie et parfois de France, et des ressources locales, notamment les plantes qui entrent dans la composition de certaines recettes de saison, cueillies notamment par une cueilleuse en Touraine, Juliette Mallet, de la cabane à plantes. Des plantes que l'on retrouve notamment dans une nouvelle création éphémère, parce que la beauté de la pâtisserie japonaise repose aussi sur cet éphémère. Donc une nouveauté qui célèbre le printemps, c'est le bleu que vous avez devant vous. Vous voyez
ah
cette,
oui.
cette couleur un peu bleu,
c'est ce que
gris.
J'ai là.
Voilà, c'est ça. Cette création est signée Alice Roca, créatrice, autrice culinaire, elle-même glaneuse, cueilleuse, cuisinière du potager.
Je sens un truc, moi, que j'identifie tout de suite.
Allez.
Reine des prés.
Waouh.
Ah mais non, il y a
mais
un
voilà.
goût que je reconnais comme ça. Champêtre.
C'est un daifuku au à la reine des prés, à la menthe.
Mm-hmm.
Le bleu, c'est la spiruline. Et il y a un autre goût, le cœur. Vous sentez pas quelque chose d'un petit peu citronné ?
Oui.
C'est un lemon curd.
C'est pas yuzu ?
Non, lemon curd.
Ah,
okay.
Mais il y a l'agrume, hein, vous avez raison Scarlett.
C'est pas merveilleux cette création ?
Oh là là, qu'est-ce que c'est bon.
C'est
elle
bon.
Va pas durer longtemps.
C'est un vrai câlin.
Et si je vous parle aujourd'hui de mochi et daifuku, c'est bien évidemment parce que ça me faisait plaisir de vous les faire goûter, mais aussi parce que c'est une spécialité inscrite dans les traditions culinaires taïwanaises. Vous l'avez rappelé en début d'émission, Taïwan a été sous domination japonaise de 1895 à 1945, ce qui a laissé une empreinte durable. On mange donc, me semble-t-il, des onigiri à Taïwan, on peut manger des dolayaki, des ramen, et puis évidemment, ces mochi, dont j'imagine que certains ressemblent à s'y méprendre à leurs cousins japonais. Il existe également des variantes locales, et je crois que vous allez nous en faire goûter, Scarlett, et ils portent cette fameuse texture Oui, on appelle la texture Q.
Ah.
C'est vraiment un vocable typiquement taïwanais pour décrire ce qu'on aime dans ces mochis, cette texture comme ça rebondissante, élastique, et c'est ce nom typiquement taïwanais de texture Q.
Q. Ouais. Alors là, on parle de la lettre Q. On pourrait dire la texture Q. C'est plus sympa.
Oh, c'est pas assez mignon.
C'est plus sympa d'avoir la prononciation.
C'est pas assez mignon.
La prononciation.
Très bien vu, Starlet, oui.
Q texture. Q texture, évidemment, vous le disiez, Elvira, ça désigne tous ces aliments dont les Taïwanais sont férus, un peu rebondissants, élastiques.
C'est comme la perle de tapioca.
Gluants. Ouais. On dirait en français, oui, rebondissant. Oui.
Rebondissant, élastique.
C'est ça.
Oui, on a dit Q, on va dire, oui, ça c'est très bon, c'est très Q.
C'est très Q.
Oui, c'est très Q.
Oui, c'est vrai qu'en français c'est très Q, ça marche moins bien.
Bah disons en tout cas pas pour la bouffe.
Oui. Bon, merci Jérôme pour cette précision. Et en parlant de Q texture, il y a ces petites choses qui ont atterri dans nos assiettes. Ça c'est Q texture?
Oui, je préparais le boule de les patates douces pour vous. On a dit c'est le QQ ball. QQ ball, oui.
Les QQ balls. Oh, goûtez ça. Comment c'est fait?
En fait, on va préparer le purée de patates douces à la vapeur. Après, on va ajouter le sucre quand le purée il est encore chaud. Et on va ajouter les farines de patates douces, bien mélangées. Et la pâte, il va être ferme, ne coller pas. Après, on va couper la pâte en petits morceaux. Et quand les huiles, il est à peu près 120 degrés, on va prolonger le boule dans l'huile. On va utiliser l'écumoire pour le bien presser. Vous pouvez répéter 4 fois, 5 fois quand les boules, il va bien gonfler, comme il est croustillon. Donc c'est le moment où on va sortir le boule de patates douces.
Waouh, et à l'intérieur, vous mettez, c'est à l'intérieur, c'est après la cuisson que vous mettez ce petit fourrage?
En fait, le boule, il est vide.
C'est ça. Et donc vous garnissez, vous farcissez la boule?
Non, on va manger directement comme ça, ou sinon, on va ajouter le poudre de la prune ou les sucres glacés. D'accord. Sinon, vous pouvez ajouter le poudre de le coco aussi, comme vous voulez.
C'est à la fois très croustillant et c'est très moelleux,
oui.
Même élastique, c'est vraiment déroutant comme
et
texture.
Et c'est même très bon avec la sauce aux 5 saveurs.
Ah non,
c'est hyper bon avec la
sauce
des calamars.
Sur ouais, les...
ah c'est non. Très bon.
Incroyable, c'était vraiment un authentique régal. Il y a une autre recette qui va figurer sur radiofrance.fr à la page On va déguster. Une recette salée à base de patates douces. Parce qu'on aime les tubercules à Taïwan, on aime la patate douce, le taro,
oui.
Le manioc.
Oui. Et le patate douce, en fait, on dit le Taïwan, c'est un patate douce. On a tous les farines patate douce. En fait, la forme, c'est comme le patate douce aussi.
Vous aimez ces textures un peu Q, justement, Pierre-Antoine Donnet à Taïwan?
Pour moi, c'est le symbole de l'inventivité à Taïwan.
Et ben voilà, la créativité culinaire, et c'est sur
et
ces
l'innovation.
Mots qu'on va être obligé de se quitter, malheureusement. Pour poursuivre le voyage à Taïwan, je vous recommande la lecture de Survivre libre de Pierre-Antoine Donnet. Taïwan, collection L'âme des peuples. C'est vraiment un petit bouquin très concis qui a le mérite de poser les choses de manière très claire. Je vous recommande à nouveau la lecture de Cometa, 12e numéro. Faites la cuisine, pas la guerre, disponible en kiosque et disponible également à la commande. Un grand merci, Beaupomme, pour aller goûter de la street food taïwanaise à Paris dans le 10e arrondissement. Un grand merci, Scarlett Chen.
Merci.
Et puis merci à Franck Paris aussi, directeur du bureau français de Taipei. Merci aux autorités de Taïwan de nous avoir facilité le voyage sur place. La semaine prochaine, le mythe Paul Bocuse. Paul Bocuse est né il y a 100 ans. À dimanche prochain. Si vous avez encore faim,